Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix jusqu'à 19h. Ce soir, Charles Villeneuve, Mickaël Darmon et Philippe Gouliot, anciens correspondants AFP et Figaro pour l'Élysée. Bonsoir les grandes voix, bienvenue et vos messages au 39-21.
Oui, bonsoir les grandes voix, bien sûr, on les accueille avec plaisir. On va terminer la semaine ensemble pour revenir sur cette actualité encore très chargée. Évidemment, ce jugement dans l'affaire des époux Balkany, aujourd'hui, vous l'avez observé, vous avez peut-être entendu l'avocat d'Isabelle Balkany il y a quelques minutes, Pierre-Olivier Sûr. Quelle est évidemment votre lecture aujourd'hui? Balkany, Patrick, condamné à 5 ans de prison ferme. Son épouse Isabelle, 4 ans. Dans les deux cas, 10 ans d'inéligibilité. Mandat de dépôt encore dans le cas de Patrick, qui est déjà à la prison de la santé. On est allé très loin, on a tapé très fort.
Ah oui, on a tapé très fort, indiscutablement.
Philippe Gouillot.
Alors, il faut reconnaître que, au moment du procès, je pense que l'attitude de Patrick Balkany n'a pu qu'irriter les juges. Il avait beaucoup d'arrogance, et puis on le connaît, c'est une grande gueule. Enfin, ça peut avoir des côtés sympas, mais ça irrite les juges. Et je pense aussi que son avocat n'était peut-être pas tout à fait adapté. C'était deux grandes gueules ensemble. Et ça, ça n'a pas dû non
Maître
plus
Dupont-Moretti.
Plaire.
Maître
Dupont-Moretti, qui a énormément de talent.
Ils avaient eu un petit échange, d'ailleurs, sur l'âge de Patrick Balkany.
Exactement, il y avait eu cette petite passe d'armes sur les 71 ans ou 70 ans. Et évidemment, on peut penser ça, mais c'est quand même un jugement très lourd. Et il y a quand même une question aussi qui se pose. Est-ce qu'il va y avoir confusion des peines? Parce qu'il a déjà été condamné. Si on additionne les deux, ça fait quand même 9 ans de,
9 ans, exactement.
De prison. C'est beaucoup. Et puis avec cette incarcération immédiate à la prison de la santé, dont aujourd'hui il n'a d'ailleurs pas voulu sortir, c'est quand même une première.
Alors avec un appel, évidemment, et l'étude de son cas, la semaine prochaine, mardi prochain. On parle de prison ferme pour blanchiment cette fois, Charles Villeneuve, dans ce volet du dossier Balkany, deuxième étape, si j'ose dire. C'est un mois après sa première condamnation, c'est l'ancien monde.
Oui, moi je pense que c'est surtout au regard de la jurisprudence fiscale, deux assassinats judiciaires. Parce que quand on regarde en matière de jurisprudence fiscale, pour des faits parfois et des sommes trois fois supérieures, les peines sont deux fois moins lourdes, presque systématiquement. Parce que quand on dit, si vous voulez, que le deuxième jugement, c'est 5 ans plus 9 ans, alors justement, Philippe disait, est-ce qu'on va confondre ou pas? On n'est pas parti pour confondre, parce qu'on n'oublie pas qu'il y a une troisième peine qui s'ajoute, c'est la confiscation de tous les biens.
Oui,
d'ores et déjà.
Donc, c'est sans précédent. Et quand on compare le sort des Balkany à celui de l'ancien ministre Jérôme Cahuzac, qui devant toute la représentation parlementaire, en charge de la lutte contre la fraude fiscale, est condamné, parce qu'il finit par avouer devant ses juges, pas devant les députés, pas devant ses pairs, pas devant le chef du gouvernement.
Et le président de la République.
Et le président de la République. Alors, bon, je ne vais pas faire de la morale parce que je laisse les camarades de Cahuzac en fer, ils en font pas mal d'ailleurs en général. Simplement, 4 ans de prison, on coupe en deux, 2 ans avec sursis. Pourquoi? Parce que 2 ans, c'est aménageable. C'est-à-dire, vous n'êtes pas incarcéré, vous êtes condamné dans votre résidence secondaire ou dans votre résidence principale au port, si vous voulez, d'un bracelet électronique. De quoi peut-être vous alourdir pour aller à la plage, parce que lui, il est en Corse.
Bon, deux poids, deux mesures, c'est ce que nous dit Charles Villeneuve. Et quelle est la lecture de Mickaël Darmon? On a entendu, c'est le discours des avocats de Patrick et Isabelle Balkany. C'est qu'ils ont fait l'exemple, une fois encore.
Oui, il y a effectivement un exemple vis-à-vis de la fraude fiscale. Il semble d'ores et déjà, d'ailleurs, c'est assez peu dit, mais que beaucoup de contribuables qui pensent avoir beaucoup de problèmes sont en train d'appeler en ce moment l'administration fiscale pour leur dire, bon, finalement, peut-être qu'on peut peut-être regarder les dossiers pour essayer d'éviter d'avoir des lourdes peines. Donc on a quand même une dimension dissuasive de la peine, qui est une démarche que l'on peut penser de la justice. Mais au-delà de ça, et pour prolonger effectivement ce qui a été dit, les juges se font et se payent quand même une génération d'élus, en particulier la génération des élus issus des Hauts-de-Seine, de chez Pasqua, de chez Sarkozy, avec un style très particulier, qui est quand même le style Balkany, qui est bien évidemment les a irrités depuis des années.
Est-ce et le style de Cahuzac, non alors.
Manifestement, non.
Manifestement, non. Voilà. La fin d'une époque, alors en gros, en creux aussi, c'est ce que vous nous dites. On en reparle dans une seconde. Évidemment, les grandes voix sont là jusqu'à 19h.
Et vous pouvez réagir au 39-21 et sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Vous écoutez Nathalie Lévy jusqu'à 20h. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec les grandes voix qui débattent de l'actualité autour de vous. Ce soir, Nathalie, jusqu'à 19h, Charles Villeneuve, Mickaël Darmon, éditorialiste à Europe 1, et Philippe Gouillot, qui est ancien correspondant AFP et Figaro à l'Élysée.
On reparle évidemment de cette condamnation lourde pour les époux Balkany aujourd'hui dans le volet blanchiment cette fois. Et on est en ligne avec Didier qui nous appelle de la région parisienne. Bonsoir Didier, vous êtes dans le 92, vous êtes à Levallois vous ?
Non, je suis Armel, moi.
D'accord.
Bonsoir Nathalie.
Bonsoir à vous, bienvenue, dites-moi.
Une seule question, est-ce que Patrick Balkany croit encore à la justice de son pays après une condamnation pareille, alors que les urnes ont montré depuis de nombreuses années qu'il a le soutien populaire. Donc la justice française est rendue normalement au nom du peuple français. Est-ce que lui considère que c'est bien au nom du peuple français alors qu'il est élu depuis des années ?
Élu, mais pardonnez-moi juste pour rappel, la dernière élection c'est 51%, c'est pas non plus complètement un plébiscite. Mais je laisse Mickaël Darmon, entre autres, vous répondre, Didier.
C'est vrai qu'il va vouloir tenter une fois de plus de prouver ce que dit à l'instant Didier, c'est-à-dire montrer que effectivement le suffrage universel, les habitants de Levallois en l'occurrence, le revalident. À chaque fois, on verra dans quelle mesure il sera en possibilité de le faire, parce qu'il faut d'abord évidemment qu'il obtienne sa libération. Maintenant, il y a deux mandats de dépôt, donc on va voir comment l'audience de la semaine prochaine va statuer. Mais c'est vrai qu'il va vouloir très certainement tenter de le faire. Mais d'autres personnes sont déjà sur le terrain, et notamment Roger Karoutchi. Absolument. Et évidemment Isabelle Balkany.
Et oui, juste
souhaite
Didier,
peut-être être candidate.
On y revient, mais juste Didier, c'est moral selon vous qu'il fasse campagne, par exemple, depuis la prison de la santé, ou ne serait-ce que d'avoir envie de se représenter ?
C'est-à-dire que je pense que c'est l'essence même de la démocratie, c'est-à-dire le pouvoir par le peuple. C'est-à-dire que le peuple donne à chaque fois ses suffrages à Patrick Balkany. Patrick Balkany a peut-être un certain nombre de problèmes financiers, j'en suis d'accord, c'est vrai. Mais en même temps, c'est quand même le peuple qui rend à chaque fois sa propre justice.
D'accord.
Et on peut difficilement aller contre la justice du peuple.
Voilà le point de vue de Didier,
remarque,
Charles Villeneuve et Philippe Bouillot.
Il y a une remarque, cher ami aussi, c'est que la justice est rendue au nom
du peuple français
aussi,
bien sûr,
si vous voulez.
Bien sûr, et après tout, quelqu'un qui a failli, et s'il est condamné par la justice, on ne peut pas opposer tout le temps les juges et le peuple. Comme le disait Charles, la justice est rendue au nom du peuple. Non, je pense que, personnellement, je serais à la place de Patrick Balkany, Dieu m'en
préserve.
Je ne me représenterai pas. Parce que malgré tout, Isabelle Balkany l'a dit en termes plus clairs que lui, bien entendu, parce que d'abord elle est libre. Ils ont quand même, elle a reconnu avoir fraudé le fisc, et pour des sommes qui sont quand même très importantes.
13
Alors,
millions.
Elle affirme qu'il n'y a pas corruption,
oui,
et que ce n'est pas
de l'argent
public.
Ça a toujours été leur ligne.
Mais c'est quand même de la fraude fiscale,
oui,
dans les grandes largeurs.
Cela étant, les fraudeurs cachent toujours le butin de leur fraude.
Ah ben évidemment,
c'est pour ça que le deuxième jugement est assez étonnant par sa sévérité, si vous voulez.
Mais
quand même, je repose la question.
Un côté moral.
Oui, c'est ça. C'est la question que je vous pose, même si un certain nombre de Levalloisiens restent toujours dans l'affection et disent voilà, les Balkany ont fait beaucoup pour la ville sur le plan moral,
mais
purement moral. Mais il
n'y a aucun rapport entre la moralité et la politique.
Pardon,
il n'y a aucun
rapport
entre la
moralité
et la politique.
Non, mais c'est pour ça que je vous pose. Mais moi, je vous pose juste la question. Je ne m'inscris pas en faux. Je vous pose la question. Pas tous en même temps.
Il y a assez de députés et de ministres qui nous font de la morale pour m'y ajouter moi-même en tant que journaliste.
Non, mais justement, en l'occurrence, on ne demandait pas. Mais là, mais ce qui est vrai, c'est qu'il n'y a pas de rapport entre la morale et la politique. Maurice Arex, médecin, Balkany, sont des gens qui ont des problèmes peut-être avec une forme de moralité légale et d'éthique politique, mais ils sont reconduits par leurs électeurs, parce que c'est une question de clientélisme également.
C'est ça, mais quand même, je me permets d'insister pour être un petit peu aussi en contradiction avec vous, parce que c'est aussi le jeu, c'est de débattre. Quand on voit Isabelle Balkany, pas de mandat de dépôt, vous l'avez entendu comme moi, cette condamnation ferme et pas de mandat de dépôt, pour des conditions, pour des problématiques de santé, on est d'accord ? Isabelle Balkany, elle a été à notre micro il y a un mois, au moment du premier volet, on l'a vu sur les marchés, on l'a vu reprendre l'intérim de la mairie de Levallois.
Alors, elle a envie d'être candidate.
Voilà, elle a simplement une problématique de santé, certes, mais elle est là et elle tient
mais
la boutique.
Non, mais alors, je vous fais remarquer simplement, Nathalie, que si elle a pris l'intérim, c'est qu'elle a été élue par tous les membres du conseil municipal.
Première adjointe.
Elle fait partie, oui, mais elle n'est pas aussi mauvaise en santé que ça, c'est... alors mais, non, je voudrais comprendre, moi, juste.
Non. Ah ben, je ne sais pas. Maintenant, si vous nous demandez de nous transformer en médecin, en plus, c'est
non,
difficile.
Non, mais vous avez bien
médecin
compris, Charles.
Médecin moralisateur. Non, mais on se demande, effectivement, dans quel état de santé réel oui. elle est. Mais je pense, là aussi, qu'elle devrait économiser sa parole. Je pense qu'elle a beaucoup parlé ces derniers temps et que maintenant, une petite diète serait bienvenue.
Coupable de blanchiment, pas de corruption en tout cas pour les époux Balkany suite au prochain épisode, et ce sera mardi pour savoir effectivement si Patrick Balkany peut sortir de la prison de la santé dont il n'a pas voulu sortir aujourd'hui pour entendre le jugement.
En l'occurrence, c'est vrai que son maintien en détention paraît quand même
excessif.
Oui, parce qu'il faudrait comparer à quoi sont condamnés des assassins,
non, on verra,
combien de temps il reste, enfin voilà, il y a
ce côté
un peu gênant dans l'histoire, même s'il est normal qu'il soit condamné.
Ouais. Voilà, c'est ça, la question c'est si les deux mandats de dépôt effectivement vont être joints, puisque dans les deux cas, il y a eu mandat de dépôt. On se reparle dans un instant, vous avez vu, grosse pagaille à la SNCF, là, au moment des vacances de Pâques, j'allais dire, non de
la
Toussaint, mais mon Dieu, je m'en parle.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix jusqu'à 19h. Charles Villeneuve, Mickaël Darmon, Philippe Gouliot, ancien correspondant AFP et Figaro à l'Élysée. Et toutes vos réactions en direct, n'hésitez pas, ça se passe au 39-21.
Alors vous le savez, hein, c'est effectivement à la SNCF, je vais y arriver, que ça se joue hein, depuis ce matin. Grosse et mauvaise surprise pour les usagers tout à l'heure, la circulation des trains perturbée dans plusieurs régions en raison d'un mouvement social inopiné. Alors on va essayer de comprendre ce que cela veut dire parce que en fait les contrôleurs et les conducteurs de trains de la SNCF ont fait valoir leur droit de retrait dès hier soir au lendemain d'une collision à un passage à niveau à Saint-Pierre-sur-Vence et dans les Ardennes qui a fait 11 blessés. Depuis, c'est guerre ouverte entre le gouvernement et notamment hein, qui était ce matin sur Europe 1, le patron de la CGT, instrumentalisation, dit-il, d'un événement de sécurité. Le droit de retrait exercé par les cheminots est une grève surprise, dit-on, de l'autre côté. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui a raison, qui a tort?
C'est difficile de savoir. Le droit de retrait, c'est effectivement en réponse à un événement mettant en danger la sécurité. Et il y a des règles précises et qui ne sont pas du tout les mêmes que pour le droit de grève. Pour le droit de grève, il faut déposer un préavis, il faut mettre en place un service minimum. Enfin, c'est beaucoup moins pénalisant pour les usagers. Tandis que là, évidemment, ce droit de retrait qui s'exerce à chaud, je dirais, on le voit bien, c'est très très pénalisant. Ce qui est curieux dans cette affaire, c'est que ça arrive juste le vendredi,
Départ en vacances.
Et voilà. Ça, malgré tout, ça choque beaucoup.
Ça crée une suspicion,
absolument.
Mais je trouve quand même que la responsabilité est partagée.
Absolument.
Elle est partagée aussi par la direction de la SNCF. Parce que quand on prend le train, par exemple, on monte à Toulon, ce que j'ai fait dernièrement, pour aller à Paris, de Toulon à Marseille, vous savez que le train n'est pas TGV, n'est pas train à grande vitesse. Donc il est omnibus, il s'arrête dans toutes les gares, si vous voulez, de la Côte d'Azur. Eh bien, on constate une chose, très souvent, et on vous donne le conseil, en plus, avant de monter dans le train, allez voir vos bagages quand vous les mettez en bout de chacun des trains. Pourquoi ? Parce qu'il y a des jeunes gens qui montent justement à l'arrêt, qui vous font les bagages et qui redescendent. Or, il n'y a pas de surveillance. Il y a de moins en moins de contrôle. Il y a de moins en moins de personnel
sécurité
dans les trains.
Et dans les gares.
Et dans les gares.
Dans les petites gares.
Mais est-ce que ce n'est pas prétexte, Mickaël Darmon ?
Oui, mais il n'y a pas de fondement juridique en réalité. En fait, le signal est politique, il est envoyé au gouvernement.
Oui,
les syndicats sont de retour. Il y a un an, pratiquement jour pour jour, les Gilets jaunes prenaient le contrôle de la contestation sociale. Un an plus tard, les syndicats, à la faveur des réformes importantes qui se préparent, et notamment celle des retraites, reviennent en force, remis en tant qu'interlocuteur au nom de l'acte 2, par le pouvoir, et envoie un signal en disant, cette fois-ci, on ne va pas jouer, ça va être dur, on prépare l'opinion à de bouleversements importants, peut-être la fameuse redite des grandes grèves de 95, on verra bien.
On a déjà une date.
Mais le message, il est là. Et il est un message envoyé à la direction de la SNCF et envoyé également à l'exécutif.
Exactement, alors, on a déjà la date du 5 décembre, pardonnez-moi, sur cette grève généralisée contre la réforme des retraites.
Oui.
Et il l'a prévenu, hein, Philippe Martinez, ce matin au micro d'Europe 1 chez Sonia Mabrouk, grève reconductible, ce n'est pas exclu
du 5 décembre. Bah non, mais qui paye tout ça? Qui paye la prise d'otage? Les usagers,
bien sûr.
Comme toujours. D'accord, le message, le signal politique est tutti quanti. Très bien. Mais les usagers, ben, finalement.
Plus que tant plus quanti, c'est-à-dire que l'idée, c'est que ça va être le grand défi, c'est est-ce qu'à la différence de 95, il y aura une forme de délégation et de lien entre les usagers du privé et ceux qui vont faire grève pour leur dire faites grève à notre place. C'est toute l'idée. Entre-temps, l'idée de mettre à égalité tous les régimes autonomes ou spéciaux a avancé. Et le combat pour l'opinion va commencer entre le gouvernement et les syndicats.
Exactement. On va écouter Patrice qui nous appelle. Bonsoir Patrice, de Paris.
Bonsoir.
Bienvenue à vous.
Madame Lévy. Bonsoir. Ben, je vous remercie. Je vous remercie aussi de m'écouter 5 minutes, parce que pour le peu que je sais...
Alors 5 minutes, je vous dis tout de suite, pardonnez-moi. Patrice, 5 minutes, ce ne sera pas possible, parce que l'émission sera dans le journal.
Je sais bien. Ce que je voulais dire par là, c'est que pour ce que je sais de l'incident qui a motivé le droit de retrait des gens, c'est qu'au fond, si on y regarde de près, vous avez un type, il est seul. Il est seul dans une rame qui peut contenir jusqu'à 200 personnes. Il est obligé d'en sortir pour aller le long des voies, parfois sur 1500 mètres, 2 km, poser des fusées, des pétards et tout, histoire de prévenir les trains suivants que ça, quelque chose ne va pas. Si pendant ce temps-là, dans la rame, il y a un incendie quelconque qui se déclare, lui ne peut rien faire, il n'est pas là. Et vous cramez 200 personnes, comme ça, parce que ça s'est déjà vu. Et sur la tête de qui ça va retomber ?
Sur sa responsabilité.
Sur le pauvre gars qui n'était pas à son poste, comme d'habitude. Alors après, les motivations idéologiques des uns et des autres, l'habituelle querelle entre les droits des uns, la prise d'otage de l'usager, comme si l'usager était pris en otage, enfin bref, tout ça. Moi, j'aimerais bien savoir ce qu'en pensent vos grandes voix, justement. Celles que j'ai entendues il y a peu, là, et avec lesquelles je ne suis pas toujours d'accord.
C'est bien, c'est comme ça qu'on avance.
Non, mais il avait un chrono, là, notre ami Patrice.
Ah oui, il est parti sur 1 minute.
Voilà. Non, ben, Philippe Gouillot.
Bien, effectivement, je suis quand même assez choqué qu'on puisse faire rouler des trains avec beaucoup de monde à bord, avec une seule personne. Je le disais tout à l'heure, relayant Charles, souvent dans les gares, il n'y a personne non plus. On ne voit personne, on prend son billet à un distributeur, on monte dans un train, maintenant il va y avoir cet équipement agent seul où il n'y aura personne non plus bientôt sur les quais. C'est le conducteur qui décidera si le train peut partir dans des conditions de sécurité. Tout ça n'est pas très bon. Tout ça n'est pas très sain. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc la responsabilité de la direction de la SNCF est également engagée.
Oui.
Maintenant, malgré tout, effectivement, comme le disait Michael, on voit bien qu'il y a une volonté de donner un signal très fort à l'approche de la réforme des retraites. Et d'autant plus que la mobilisation contre la réforme de la SNCF l'année dernière n'avait pas marché.
Tu ferais un très bon médiateur.
Merci Patrice, en tout cas, de votre appel. Un mot pour conclure, Charles et Michael.
Bien, l'automne social a commencé avec cette grève. Et maintenant, l'enjeu, c'est est-ce que les syndicats vont arriver à faire reculer le gouvernement ou pas ?
Bah, il a commencé un peu, vous avez vu, Michael Darmon, Charles Villeneuve, il n'écarte pas l'idée de retarder l'application de la réforme des retraites.
Ne pas écarter l'idée, c'est pas le faire.
C'est pas le reculer.
On verra en quelle mesure tout ça n'est pas non plus une grande opération politique.
Nathalie, vous avez raison là. Ça a commencé.
Ah, bah pour une fois.
Ça a commencé. Non, tout à fait.
C'est assez rare pour être souligné, bravo.
Attendez, je vais noter la date.
Faut finir là-dessus, Nathalie.
Bon, merci. C'est les vacances. Merci aux grandes voix ce soir, Philippe Gouillot, Charles Villeneuve, Michael Darmon. Merci à vous trois. La suite dans une seconde.
Et justement, la suite, c'est quoi Nathalie ?
La suite, c'est le journal de Sébastien Krebs. À la une, on va aller en Catalogne où la tension est encore montée d'un cran. On fera aussi le point sur la situation ce soir sur les réseaux ferroviaires parce que vacances de la Toussaint oblige.
Vous écoutez Nathalie Lévy, nous sommes vendredi jusqu'à 20h sur Europe 1.